Le testament de mon père. Lorsque mon père mourut, j'étais à peine entré dans ma majorité. Aussi, comme je sentais vivement la perte que j'avais faite, il me semble le voir encore, ce cher homme, couché sur son grand lit aux rideaux rouges, si pâle qu'il me faisait peur. Depuis plusieurs jours, il était bien mal. Ce jour-là, le médecin était venu et avait secoué la tête. Mon père avait compris. Moi, je ne voulais pas comprendre. « Jacquinet, me dit-il, quand nous fûmes seuls, je m'en vais rejoindre ta pauvre mère. Ça me chagrine de te laisser seul, mais vois-tu, le bon Dieu est là. »« Ne dites pas de ces choses-là, mon père, lui dis-je. » »« Il ne te faut pas faire illusion plus longtemps, mon garçon. Je te laisse tout ce que j'ai, la maison, les propriétés. Je sais que tu as plus de cœur que de tête. » Tâche de ne pas te laisser voler. Ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent, car c'est le moyen d'en perdre beaucoup. » Mon père s'était épuisé en parlant ainsi. Il s'arrêta, oppressé. « Ne vous fatiguez pas à parler, m'écriai-je. Non, vous ne mourrez pas. Le bon Dieu sait bien que j'ai besoin de vous. » Le brave cher homme secoua la tête. « Outre les immeubles, reprit-il avec difficulté, je te laisse quelque chose. » Tu trouveras dans mon secrétaire un papier. » Ses yeux se fermèrent encore. Je crus qu'il allait trépasser. Mais bientôt il les rouvrit. La mort avait déjà décomposé son visage. Il fit un violent effort pour parler. « Jacquinet, murmura-t-il, défie-toi de... » Mais sa tête retomba sans force sur l'oreiller et ses yeux se fermèrent pour la dernière fois. J'étais orphelin. Vous dire ma douleur, mon désespoir, serait impossible. Les voisins, les amis étaient accourus, et chacun cherchait à me consoler en me rappelant combien le cher défunt était bon, qu'il avait fait ceci, qu'il avait dit cela, comme si toutes ces paroles-là étaient faites pour consoler le monde. Plus ils en disaient, plus je m'attristais, car je savais bien mieux que tous combien mon père était un brave homme, et mon cœur se fendait à la pensée de ne plus revoir son bon sourire chaque matin et d'habiter tout seul notre grande maison où l'on était si bien à deux. Mais je m'arrête là-dessus car ces choses se sentent bien mieux qu'elles ne se disent. Les deux ou trois jours qui suivirent me semblent comme un rêve, tant j'avais le cœur noyé de chagrin. Je mangeais, je marchais, je me couchais comme une machine. Quand nous allâmes au cimetière, il pleuvait à torrents. Et si un voisin n'était venu ouvrir son parapluie sur ma tête, je serais resté là, tête nue à la pluie, sans m'en apercevoir. Monsieur le curé se dépêcha, puis on me prit par le bras pour revenir. Après, ce fut un grand festin à la maison, où, sous prétexte que la douleur creuse et qu'il faut bien noyer son chagrin, tout le monde mangea bien et but encore mieux, excepté moi, qui avais plus besoin de consolation que les autres. Peu à peu, tous les voisins se retirèrent et je me trouvai seul avec Jean le Boiteux, le tailleur du village. On l'appelait ainsi parce qu'il avait la hanche démise. Il était resté le dernier, censément pour m'offrir ses services et ses conseils. C'était un garçon de 10 ans plus âgé que moi, qui avait dans le village la réputation d'être très madré, très capable pour trouver le nœud dans les affaires embrouillées. Il n'avait pas beaucoup fréquenté chez nous, car mon père, je ne savais pourquoi, ne l'aimait pas. Mais moi, j'allais souvent chez lui en cachette. Sa société était très agréable. Il savait toutes sortes de choses, des histoires du temps passé, et il les racontait si bien qu'il faisait rire ou pleurer à volonté. Aussi, il y avait toujours du monde à sa boutique. Il habillait tout le monde, et avait, disait-on, gagné déjà pas mal d'argent. J'aurais préféré demeurer seul. Cependant, je ne fus pas fâché de sa compagnie et je le remerciai bien. « Oh, dit-il, dans les circonstances semblables, mon pauvre Jacquinet, c'est bien le moins qu'on cherche à se rendre utile. » À ce moment-là, je ne sais comment ce que mon père m'avait dit d'un papier caché dans son secrétaire me revint à la pensée. « Tiens, me dis-je, il faut profiter de ce que Jean le Boiteux est là pour savoir ce qu'il y a dedans. S'il y a des choses que je ne comprends pas, je lui demanderai conseil. » Vous voyez combien j'étais simple et naïf. Montrer ainsi mes secrets au premier venu, et supposer que mon père, qui me connaissait si bien, puisqu'il me disait souvent « Mon pauvre Jacquinet, tu ne seras jamais qu'un âne », aurait écrit des choses trop difficiles pour moi, Enfin, vous allez voir comme il a failli m'en coûter cher pour avoir eu tant de confiance envers un étranger et si peu envers mon père. J'allai donc au secrétaire et j'y cherchai le papier. Je ne cherchai pas longtemps. Bientôt, une grande enveloppe avec un cachet rouge me tomba sous la main. Mon père avait écrit dessus de sa plus belle écriture « À mon cher fils Jacquinet » pour le lire après ma mort. Quand je vis cela, mes larmes redoublèrent. Jean le Boiteux s'en aperçut. « Allons, Jacquinet, me dit-il, ne te désole pas ainsi. C'est ce papier qui te fait pleurer. Voyons donc ce que c'est. » Sans rien dire, je lui tendis l'enveloppe. « Ah, fit-il, ce doit être un testament. Ne te mets pas en peine. Je me charge de le remettre au notaire, et je vais y aller de ce pas, si tu veux. » À ces mots, j'ouvris de grands yeux. « Le notaire, dis-je, est-ce qu'il faut un notaire pour ouvrir cela ?»« Sans doute, répondit Jean. Tu ne sais donc pas que si un testament n'est pas ouvert par devant notaire, il n'a plus de valeur ?»« Cela m'étonne tout de même, que je ne puisse pas lire ce que mon père a écrit sans la permission d'une autre personne, car enfin, en supposant que ce soit un testament, il n'y a que moi d'héritier. »« C'est vrai, Jacquinet, mais cela n'empêche pas que ce testament doit être ouvert par devant notaire. Du moins, je t'y engage dans ton intérêt. » J'étais bien embarrassé. D'une part, j'avais fort envie d'ouvrir le pli et de le lire de suite, et bien m'en aurait pris. Mais d'autre part, si Jean le Boiteux avait raison, il connaissait la loi mieux que moi. « Après tout, me dis-je, ce ne sera qu'un peu de temps perdu. Allons chez le notaire, il faudra toujours bien que je sache que mon père a écrit. » Je dis à Jean qu'il avait peut-être raison, que la chose d'ailleurs n'était pas si difficile, et que nous irions ensemble chez le notaire s'il voulait bien m'accompagner. Il répondit obligeamment que oui, et nous partîmes tous les deux, moi tenant très serré dans la poche de ma veste le précieux papier. Tout au bout du village, dans une grande maison aux volets verts, avec un beau jardin sur le devant et un verger derrière, demeurait alors M. Blémard, le notaire. Il était connu dans tout le pays pour un homme très réservé, très froid, mais d'une probité sans tache. À preuve, c'est qu'il n'y avait personne dans la paroisse de plus pieux que lui. Il portait le dé à la procession, il chantait au lutrin et il allait souvent à confesse. Nous fûmes introduits dans son cabinet. C'était une pièce bien meublée, avec une grande bibliothèque et des casiers pleins de papiers. M. Blémard était un homme mince, d'apparence chétive, mais qui en a imposé beaucoup. Le secret de sa force était dans son regard. Il avait dû bien souvent et à toutes les heures traverser seul la forêt, mais personne n'avait entendu dire qu'on n'eût jamais osé l'attaquer. Ses petits yeux perçants auraient cloué sur place le brigand qui aurait voulu les affronter. M. Blémard nous regardait sans mot dire. À la fin, je m'enhardis. « Monsieur le notaire, lui dis-je, mon pauvre père vient de mourir. Il a laissé un papier à mon adresse. J'allais l'ouvrir, mais Jean le Boiteux, que voilà, m'a dit qu'il était nécessaire qu'il soit d'abord ouvert par vous. » Le notaire prit la lettre, la regarda, et il me sembla voir passer sur son visage un air d'étonnement. Mais ça ne dura pas. Il se tourna vers moi. Jean a raison, mon ami, et vous avez bien fait de suivre son conseil. C'est un homme avisé, du reste, et vous ne sauriez faire mieux que de vous en rapporter à lui, maintenant que vous voilà seul. Quant à moi, mon garçon, je suis tout disposé à vous rendre service, car j'étais l'ami de votre brave homme de père. Monsieur Blémard dit cela avec un air de bonté qui m'alla au cœur. Il levait les yeux vers le plafond, comme s'il avait eu une larme à cacher. « Je vous suis bien obligé, monsieur, » répondis-je. « Eh bien, Jacquinet, laissez-moi ce papier. Demain, vous reviendrez, et je vous dirai ce qu'il renferme. » Jean le Boiteux prit son chapeau et me cligna de l'œil pour m'avertir qu'il fallait se retirer. Cependant, je risquais une observation. « Mais, monsieur, n'y aurait-il pas moyen de savoir aujourd'hui ce que me dit mon père ?»« Revenez demain, » vous dis-je. « J'ai mes raisons pour ne pas ouvrir cette lettre devant vous. » « Ayez confiance en moi. » Et je m'en allais. En écrivant ceci, il me vient de folles envies de me donner des coups de poing, tant je me trouve stupide et borné. Mais n'anticipons pas. Le lendemain, je ne manquais pas de me rendre chez M. Blémard, comme il me l'avait dit. En allant, je passais chez Jean le Boiteux, mais je ne le trouvais pas chez lui. Arrivé à la grille, je tirai la sonnette 3 fois avant qu'on vînt l'ouvrir. Enfin, le concierge, une sorte de petit vieux, qui avait l'air d'un bedeau, vint à travers le grillage me demander qui j'étais. « Je m'appelle Jacquinet, » lui répondis-je. « Je viens pour voir M. Blémard. »« Ah, c'est vous, Jacquinet. Monsieur est parti pour quelques jours, mais il a laissé une lettre pour vous. »« Bon, la lettre de mon père, » pensais-je. « Ah bien oui, le concierge me remit un petit billet d'une écriture serrée que j'eus toutes les peines du monde à déchiffrer. » Le notaire m'expliquait comme quoi il avait été appelé à Paris pour 15 jours, mais que je ne me misse pas en peine, attendu que le papier en question ne contenait rien d'important et qu'il ne manquerait pas son retour de me le communiquer. Je n'étais pas content. Il me semblait qu'on n'avait pas le droit, quand même on fut notaire, de garder une lettre qu'un père avait écrite à son fils avant de mourir. Je chiffonnai le billet dans mes mains avec ennui et je rentrai chez moi de très mauvaise humeur. Et quand je fus assis près du feu, en face du fauteuil de mon père, dans lequel je n'osais pas encore m'asseoir, était-ce rêve ou réalité, il me sembla entendre une voix bien connue qui me répétait lentement « Mon pauvre Jacquinet, tu ne seras jamais qu'un âne. » Je n'étais pas rentré depuis longtemps que je reçus une visite à laquelle je ne m'attendais pas. Un monsieur, très bien mis, qui n'était certainement pas du village, car je ne l'avais jamais vu, entra chez nous et me dit très poliment « C'est à monsieur Jacquinet fils que j'ai l'honneur de parler. »« Oui, monsieur, » répondis-je, assez embarrassé par ses grandes manières. « Permettez-moi de vous exprimer toute la part que je prends à votre affliction, monsieur. J'ai connu votre père, c'était un brave homme, nous avons fait souvent des affaires ensemble. » L'étranger s'assit. Je voyais qu'il avait autre chose à me dire. Enfin, il tira un grand portefeuille de sa poche et se mit à en tirer des papiers. « Oui, bien souvent, et j'espère que nous en ferons aussi, monsieur Jacquinet. Votre père m'avait souscrit ces billets qui sont échus, vous le voyez, depuis 2 jours. Mais je n'ai pas voulu troubler votre douleur, et je ne serais même pas venu si tôt si, d'impérieuse nécessité, je le regardais tout abasourdi. Lui souriant, me montrait plusieurs feuilles de papier timbré, au bas desquelles je reconnus la signature de mon père, par lesquelles il s'engageait à payer de fortes sommes, qui se montaient en tout à environ 20 000 francs. « Juste ciel !» m'écriai-je. « 20 000 francs ? Où voulez-vous que je les prenne ?» L'étranger me regarda étonné. « Votre père a dû vous parler de cela, monsieur Jacquinet. Il n'était pas homme à ne pas veiller sévèrement ses affaires. » « Je vous proteste, monsieur, que je ne savais pas le premier mot de cette dette et que je ne puis absolument pas la quitter. C'est à peine si la maison et le bien que m'a laissé mon père valent une pareille somme. » Mon visiteur prit un air froid. Il remit lentement les papiers dans son portefeuille et me dit « Monsieur Jacquinet, j'aurais cru que nos affaires ensemble seraient plus faciles. Mais j'ai besoin de mon argent, et bien que cela me gêne beaucoup, je vous donne un mois. » Ce terme expiré, je serai obligé de procéder légalement contre vous. « Mais il faudra que je vende tout ce que j'ai !» m'écriai-je désespéré. L'étranger leva les épaules comme pour dire « Que voulez-vous que j'y fasse ?» et me laissa atterré. Dès que j'eus recouvré quelque peu ma présence d'esprit, je me mis à consulter fiévreusement les livres dans lesquels mon père écrivait journellement ses comptes. Je ne tardais pas à y découvrir la trace des 20 000 francs qui étaient dus. C'était un marché de bestiaux, car mon père assez fréquemment se livrait à ce commerce. Après avoir parcouru la colonne du débit, j'examinai celle du crédit. Je n'étais pas très expert en affaires, mais j'eus bientôt remarqué un article important. Mon père avait reçu, il y avait 1 mois environ, une somme de 50 000 francs en espèces et en billets de banque. Comme il n'était pas allé à la ville depuis, il n'avait pu les porter chez son banquier. Il devait donc être dans la maison. Je poussai un cri de joie. « Cher père, » m'écriai-je, « je savais bien qu'il n'avait pu me laisser dans l'embarras. Il me restera, d'après ses livres, 30 000 francs nets. J'ai de quoi vivre largement avec la maison et les propriétés. Cherchons où cet argent peut être. » Immédiatement, je fouillai le secrétaire. J'ouvris tous les tiroirs, toutes les cachettes à secret. Je ne trouvai rien qu'une petite somme insignifiante. « Voilà qui est étrange, » pensais-je, et une sueur froide me perla au front. Je cherchai encore, je parcourus toutes les armoires, j'ouvris les matelas, les oreillers, rien. 2 heures durant, de la cave au grenier, je continuai mes recherches. Elles furent toutes infructueuses. De guerre lasse, enfin, je me couchai. Mais quelle nuit! Les cauchemars les plus horribles heurtèrent mon chevet. Une armée d'huissiers entourait mon lit. Ils arrachaient les couvertures et les mettaient en vente. J'essayais vainement de les retenir, ils me dépouillaient impitoyablement. Tout y passait jusqu'au portrait de ma mère, dans son cadre d'or, qui me regardait tristement, tandis qu'on l'adjugeait à Jean le boiteux. Monsieur Blémard aussi était là. Je lui criais « Rendez-moi ma lettre !» Il me regardait malicieusement. Je me jetais sur lui, mais il s'évanouissait comme une ombre, et je me trouvais assis sur mon séant, agité, fiévreux, tandis qu'un rayon de lune se jouant sur mon lit semblait se moquer de moi et me dire « Pauvre Jacquinet, il est donc bien vrai, tu ne seras jamais qu'un âne. » Vous devinez si les jours qui suivirent furent agréables pour moi. Je retournai plusieurs fois chez le notaire. Invariablement, on me répondait qu'il n'était pas encore revenu. Pourtant, c'était là mon seul espoir. Cette lettre de mon père, elle me dirait ce qu'était devenu l'argent dont j'avais besoin. Enfin, M. Blémard revint. « Eh, bonjour, Jacquinet, » me dit-il en me revoyant. « Comment allez-vous depuis mon départ? Devenez-vous habile à gérer vos propriétés? Faites-vous bien vos petites affaires? » « Mes propriétés seront vite gérées si cela continue, monsieur, » répondis-je. « Je dois 20 000 francs et je n'ai pas un sou à donner. Mais il ne s'agit pas de cela. Voulez-vous me rendre le testament de mon père ?»« Je vous le rendrai, » me dit le notaire, « mais je crains bien, mon pauvre ami, que vous ne mettiez inutilement votre espoir dans ce papier. Je vous l'ai dit, il ne contient rien d'important. » « Et pourquoi mon père l'aurait-il écrit, si c'était pour ne rien me dire qui valut la peine ? Mais je vous prie, donnez-le-moi, cela vaudra mieux que de t'en parler. » Vous voyez que j'étais devenu un peu plus courageux. Le notaire, sans parler, mais avec un mauvais sourire, fouilla dans ses cartons et me tendit un papier. Je me jetai dessus avidement, je le déployai. Jugez de ma surprise, au lieu de l'écriture claire, droite, bien alignée de mon père, je vis un grimoire illisible, avec toutes sortes de « oum » et de « us » à la fin des mots. « Qu'est-ce que cela ? » m'écriai-je. « Cela, mon ami, c'est du latin. Votre père, craignant sans doute que vous ne lisiez ce papier vous-même, m'a écrit dans cette langue pour vous obliger à me le communiquer. Mais ce n'est pas son écriture, et je doute qu'il ait jamais appris le latin, » m'écriai-je. « Il l'aura fait écrire par monsieur le curé, » me répondit monsieur Blémard, impassible. Il me regardait en parlant ainsi avec ses petits yeux perçants. Je fus intimidé. « Mais enfin, monsieur, tout cela peut bien m'étonner. Je suis dans un grand embarras. Mon père ne m'en a pas prévenu, mais je vois dans ses livres qu'il a préparé ce qu'il faut pour me tirer de peine. Seulement, je ne puis savoir où l'argent est placé. Ce papier devrait me l'indiquer. » « Ce papier n'indique rien, mon cher ami. Je comprends votre embarras, mais je ne puis vous donner d'autres indications que celles que vous connaissez vous-même. Du reste, laissez-moi ce papier jusqu'à demain. » Je vais vous en faire une exacte traduction que vous pourrez emporter, si vous les voulez, avec l'original. » Que pouvais-je répondre? J'avais bien le pressentiment d'une insigne fourberie, mais je ne savais comment la découvrir. S'il plaisait à M. Blémard d'affirmer que ce charabia était la lettre de mon père, comment pouvais-je prouver le contraire? Qui avait vu le pli entre ses mains? Force fut donc de me retirer sans rien dire. J'étais bien malheureux. Quelques jours à peine me séparaient du jour où ma maison, avec les prés et les vergers, seraient mis en vente, car j'en avais été réduit là, n'ayant aucune ressource et aucun crédit. Les affiches étaient déjà placardées. Je reçus la visite de Jean le Boiteux. Il venait m'apporter ses condoléances. Cet homme était comme les hiboux, hantant les maisons de malheur. Cette fois-ci, il ne fut pas si bien reçu que la première. Je le pris par le bras et le mis à la porte dès qu'il commença à ouvrir la bouche. Il était tout surpris. Je lui dis en fermant la porte sur lui, « Va t'en trouver, monsieur Blémard, misérable. C'est toi la cause qu'il a entre les mains la lettre de mon père. Sans toi, je suis bien sûr que je ne serais pas obligé de vendre ma maison. » Pourtant, je voulus faire tout ce qui dépendait de moi pour savoir la vérité. J'allai donc trouver monsieur le curé, muni des papiers en latin et de la traduction que m'en avait remise monsieur Blémard, traduction dans laquelle tout était insignifiant et où je ne retrouvais aucun de ces traits qui marquaient le style affectueux de mon bien-aimé père. « Monsieur le curé, lui dis-je, monsieur Blémard, le notaire, prétend que vous avez écrit ceci pour mon père avant sa mort. Monsieur le curé était un bon vieux qui avait l'oreille dure. Il profitait des délais que lui permettait son infirmité pour réfléchir longuement à ses réponses. Si monsieur Blémard a dit cela, cela doit être vrai, me répondit-il enfin. « Mais vous devez le savoir, interrompis-je. Avez-vous, oui ou non, reçu de mon père la commission d'écrire ce papier en latin ?» Monsieur le curé ne passait pas pour être très savant, bien qu'il essaya souvent dans ses sermons d'employer de grands mots. Nous autres paysans, surtout les jeunes, nous nous apercevions bien de temps en temps qu'il faisait des fautes de français. On racontait même malicieusement dans le village qu'on l'avait vu passer sur la place d'un air recueilli, lisant son bréviaire au rebours. La vue du cher homme était si mauvaise. Et puis, ajoutait-on, il comprenait autant d'une manière que de l'autre. Aussi pus-je remarquer que monsieur le curé était extrêmement flatté de ce que monsieur Blémard l'avait supposé capable d'écrire de sa propre main ce document latin. « Attendez donc, me dit-il, vous savez, mon garçon, à mon âge, la mémoire fait parfois défaut, et puis on me demande si souvent d'écrire. Mais oui, je crois bien me rappeler que ce pauvre vieux Jacques Quinet, c'est bien cela, oui, c'est moi qui dois avoir écrit ce papier. » Alors, monsieur le curé, voudriez-vous bien me dire si cette traduction qu'en a faite monsieur Blémard est exacte ? Je n'étais pas habile, vous le voyez, mais pouvais-je soupçonner l'honnêteté, la véracité du curé de la paroisse ? Le vieux malin mit ses lunettes, tout en disant « Si monsieur Blémard l'a faite, ça doit être exact. Monsieur Blémard est un homme capable, très savant et très pieux. » Puis il promena quelques instants les yeux sur les lignes, en hochant la tête d'un air approbateur. « Oui, c'est comme cela, ce cher monsieur Blémard. Quel talent ! Allez, mon ami, vous pouvez dire que cette traduction est exacte et que les derniers conseils de votre père, que j'ai certainement dû transcrire en latin, sont parfaitement rendus en français. Profitez-en, mon ami, profitez-en !» Et je rentrai chez moi, l'esprit et le cœur plus angoissés que jamais. Le dernier jour était passé. Le lendemain, de bonne heure, ma maison, mes meubles, mes propriétés devaient être vendues à l'enchère. Bientôt, je devrais quitter, sans ressources, le lieu qui m'avait vu naître. Toute cette journée-là, de folles pensées m'avaient traversé l'esprit. Plusieurs fois, l'idée du suicide m'était venue. Il avait fallu une visite à la tombe de mon père pour la dissiper. J'étais revenu du cimetière, résolu à vivre et à porter honorablement mon nom, mais mon avenir était un mystère auquel je n'osais songer. Un moment aussi, j'eus la pensée d'aller trouver le juge de paix et de lui raconter l'affaire. Mais je réfléchis bientôt que ce serait inutile. Je n'avais pas de preuves contre M. Blémard, et le curé n'avait-il pas déclaré que c'était bien lui qui, au nom de mon père, avait écrit le testament latin ? Toute cette histoire était tellement embrouillée que je n'y comprenais rien moi-même. Il était nuit depuis longtemps, mais je n'avais pas le cœur de me coucher. Assis devant la table dans ma chambre du premier, je n'avais pas de lumière. L'obscurité me convenait mieux. Je regardais les étoiles briller à travers la fenêtre et mes yeux étaient pleins de larmes. Il était minuit passé, que j'étais là encore. Alors il me vint à la pensée de prier le bon Dieu, celui dont m'avait parlé ma mère. C'est ce que je fis en me repentant de n'y avoir pas songé plus tôt. Je me mis donc à genoux et je racontai à Dieu tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui demandai de me venir en aide et de me faire trouver cette fortune de mon père qui pouvait, dans les circonstances présentes, me tirer de peine. Quand je me relevais, j'étais presque joyeux. Il me semblait que le bon Dieu me disait, en réponse à ma prière, « N'aie pas peur, Jacquinet, tu retrouveras ce qui t'appartient, tu ne quitteras pas la demeure de tes parents. » À peine cet espoir, cette conviction, dirais-je, était-il dans mon cœur qu'il me sembla entendre un bruit dans le jardin. Je prêtai l'oreille, les feuilles mortes craquaient comme si l'on marchait dessus, mais ce bruit ne tarda pas à cesser et je crus m'être trompé. Pourtant, un instant plus tard, j'entendis distinctement la lourde porte d'entrée que je ne fermais jamais à clé, ce n'est pas l'habitude dans nos campagnes, rouler sur ses gonds. Il y avait évidemment quelqu'un dans la maison. Je n'ai jamais été bien intelligent ni bien porté pour les livres, mais en revanche, sans me vanter, J'ai toujours eu la réputation de ne pas manquer de courage et de savoir me défendre. Si j'eus peur, ce ne fut qu'un moment. J'ouvris sans bruit la porte de ma chambre et je me penchai sur la rampe de l'escalier. Jugez de ma surprise, je vis dans le corridor deux hommes dont l'un s'occupait d'allumer une lanterne sourde. Quand elle fut allumée, je reconnus en celui qui la portait, devinez qui, Jean le Boiteux, et l'autre n'était rien moins que le notaire Blémard en personne. Je rentrai dans ma chambre et m'armai d'un pistolet qui n'avait pas été déchargé depuis la mort de mon père. De l'autre main, je pris un bâton de berger, très noueux par un bout, puis je descendis à pas de loup. Pendant ce temps, les deux complices, car je ne pouvais penser qu'ils vinssent pour autre chose que pour me voler, s'étaient introduits dans l'escalier de la cave. Ils ne disaient rien, mais je voyais leurs ombres se dessiner contre les murs. Je les suivis silencieusement, et quand ils furent arrivés au bas, je m'arrêtai à mi-chemin, dans un angle de l'escalier d'où je pouvais tout voir et par où je leur coupais sûrement la retraite. « L'imbécile dort comme une souche, » disait Jean le Boiteux au notaire. « Nous avons pu entrer facilement. Espérons que le diable protégera aussi bien notre sortie. »« Ne parlons pas du diable et dépêchons-nous, » répondit M. Blémard. « Voyons ce papier. Derrière la troisième futaille, la voilà, tu trouveras une pierre. » C'est la quatrième en comptant par en bas qui est décellée. Ôtez la futaille, Jean. Bon, voilà la pierre, tu l'ôteras, tu trouveras dans l'épaisseur du mur un coffret où j'ai renfermé l'argent que la maladie m'a empêché de porter au banquier. Voilà le coffret, monsieur, s'écria tout à coup Jean le Boiteux. Qu'il a donc bien fait, le cher homme, de tomber malade, et son grand benêt de fils qui dort à cette heure. Mais ouvrons cette boîte. Il sera plus facile d'en emporter le contenu dans nos poches. Attends d'abord que j'aie brûlé ce testament. Il pourrait nous compromettre. Voyons, ouvre ta lanterne. » Il n'avait pas fini ces mots qu'un formidable coup de bâton tombait sur son bras droit, qu'il tendait vers la lumière pour mettre à exécution son projet. Il poussa un cri de douleur et laissa tomber le papier. « Scélérat ! » m'écriai-je. Vous êtes surpris de me voir. Vous croyez aller jusqu'au bout dans votre œuvre de ténèbres. Mais il y a un dieu sur nos têtes. Sortez, misérable. » Les deux associés ne se le firent pas dire deux fois. Jean le Boiteux laissa la lanterne et à tâtons remonta l'escalier suivi de M. Blémard qui essayait encore, le scélérat, de me faire trembler avec ses yeux perçants. Mais tout de même, c'est lui qui tremblait. S'il avait essayé de résister, il est certain que je lui aurais fait un mauvais parti. Je n'essayai pas de les poursuivre. Dès qu'ils furent partis, je ramassai le précieux papier et je vis enfin le testament de mon père. C'était bien son écriture. À la lueur douteuse de la lanterne, je n'eus pas de peine à la reconnaître. J'embrassai plusieurs fois ce papier avec larmes, puis je le lus attentivement avec transport. Il me semblait entendre la voix de mon père sortir de sa tombe. Que d'affection, que de tendresse dans ces lignes tracées par sa main déjà lassée. « Mon cher fils, me disait-il, je sais que cette maladie dont je viens d'être saisi me conduira au tombeau. Je t'écris donc mes derniers conseils, sûr que tu t'efforceras de les suivre. Garde-toi, me disait-il plus loin, de fréquenter notre voisin Jean le Boiteux. C'est un mauvais garnement qui a déjà essayé de me voler et que j'ai chassé de chez moi. Il finira ses jours dans quelque bagne, n'ai rien à faire avec lui. Défie-toi par-dessus tout du notaire Blémard. Cet homme, sous des dehors hypocrites, cache la cupidité la plus basse. Mais Dieu saura bien le trouver un jour. Du reste, quel besoin aurais-tu de ces gens-là? Je te laisse assez pour vivre tranquille, libre et sans souci, en cultivant ton champ et en gardant ta maison. Ne pouvant transporter chez un banquier l'argent qui nous reste, toutes mes affaires terminées, je les déposais en lieu secret. Suis attentivement les indications que je te donne et tu le trouveras. Venait ensuite la description des lieux que M. Blémard avait si bien suivis. Sa lettre se terminait par des conseils empreints de la sagesse, de la piété et de l'affection par lesquels mon père m'avait toujours paru supérieur. Dans la boîte, outre quelques papiers de famille assez importants, je découvris la somme de 50 et quelques 1000 francs que j'avais vainement cherchée. Il y avait de l'or, mais la plus grande partie était en billets de banque. J'étais sauvé. Le lendemain, quand l'huissier, le commissaire-priseur et tout le tremblement se présentèrent, j'eus bientôt fait de les remercier. Maintenant, je suis heureux, établi confortablement, cultivant ma propriété qui me rapporte de quoi vivre, mon argent est déposé à la banque, les intérêts sont employés à faire du bien ici et là, comme le bon Dieu me l'indique, j'ai reçu une bonne leçon que je n'oublierai jamais, et j'ai écrit mon histoire afin de vous en faire profiter vous aussi. Ne vous laissez prendre par personne, sous quelque prétexte que ce soit, le testament de votre père. » Auditeur, vous avez compris le sens de cette histoire. Son but n'a pas été seulement de vous amuser, mais de vous montrer dans un récit allégorique combien le peuple est insensé de se laisser dépouiller de la parole de Dieu. Vous n'avez pas manqué de reconnaître dans ce pauvre Jacquinet l'homme des campagnes et des villes aussi, bon mais insouciant, courageux mais ignorant de ses intérêts. Jean le Boiteux représente cette catégorie d'hommes qui, appartenant au peuple comme Jacquinet, s'efforce par la ruse et la duplicité de prendre de l'ascendant sur lui pour son malheur. Cette armée de moines, de capucins qui vont en mendiant de porte en porte et sont les dominateurs les plus astucieux qui existent. Et M. Blémard, que représente-t-il sinon le prêtre qui, au nom de l'Église, a ravi au Moyen-Âge la parole de Dieu à la multitude et ne lui a laissé à force d'instance qu'une version latine tronquée et une traduction infidèle de cette mauvaise version. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi le prêtre, les moines, ont-ils ainsi ravi à l'âme humaine son bien le plus précieux, le testament du Père Céleste? Vous le comprenez, c'était pour le tenir dans la servitude et dans la dépendance et pour le dépouiller des biens terrestres sous prétexte de lui vendre le ciel. Aujourd'hui, tous les blémards commencent à perdre leur puissance. Le peuple est éclairé et ne se laisse pas tromper. Et depuis le coup de massue de Luther et de Calvin, ce pauvre blémard ne s'est jamais complètement relevé. C'est égal, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais il me semble que Jacquinet n'a été sage qu'à demi. Reprendre le testament de son père, c'était bien, mais laisser partir comme cela messieurs Blémard et Jean le Boiteux, c'était mal, car enfin ils sont peut-être allés en tromper d'autres. À sa place, je n'aurais pas manqué de les enfermer dans la cave jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Il faut se mettre à l'abri des atteintes de ces gens-là. Pourtant, j'aime encore mieux Jacquinet qui oublie de poursuivre M. Blémard et son complice pour lire le testament de son père que ceux qui oublient de lire ce testament pour mieux poursuivre l'ennemi. Faisons les deux. Lisons la Bible que Dieu a écrite pour nous, où son amour nous parle, où son Fils se donne pour nos âmes, où le ciel nous est accordé gratuitement, et faisons résolument la guerre à ceux qui voudraient nous ôter la liberté dans la vie présente et l'espérance de la vie éternelle.